Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile mais pas que. Cette semaine au sommaire de Ça roule, un hommage à un designer de génie, Tom Matano, qui nous a quitté le week-end dernier à l'âge de 76 ans et qui est l'un des papas d'une voiture devenue un accessoire de mode dans les années 90 jusqu'à devenir pour certains un véritable mythe aujourd'hui. Je veux parler bien sûr de la Mazda MX-5, plus couramment appelé par les puristes Miata. Sa roule va donc revenir sur l'histoire de la Mazda MX-5. Parfois, la détermination, le courage, l'ambition, la vista, ou tout simplement l'écoute du marché, permet à un petit constructeur de créer un marché, ou de le relancer, tout du moins. On croyait l'époque du Roadster à l'anglaise terminée, enterrée, avec les années 70. Et pourtant, une marque automobile japonaise, basée, elle, à Hiroshima, n'hésita pas à jeter un pavé dans la mare en lançant en 1989 ce qui allait devenir un véritable mythe, l'étonnante et ravissante Mazda MX-5, appelée également couramment Miata. Une chose est sûre, Mazda voulait casser les lignes avec des produits dits « austères », comme l'étaient les voitures japonaises à l'époque. Il est certain qu'il fallait une grande ouverture d'esprit et une extrême compréhension du monde occidental pour s'aventurer et lancer la Mazda MX-5, connue aussi sous les noms de Miata ou Denos Roadster, ou tout simplement dans la bouche des passionnés de Mimix. Allez, un peu d'histoire. Tout commença pourtant par hasard pour la Mazda MX-5. Avec un journaliste automobile américain, Bob Hall, qui visitait les usines Mazda en 1979 et assurant de la réussite d'un tel modèle. Alors même que le marché du Roadster anglais déclinait, sans doute parce que MG ou Triumph avaient perdu de la vista qui les caractérisait dans les années 60, plus qu'une désaffection pour le produit en lui-même. Le même Bob Hall, donc, rencontrant à Palm Beach Shigenori Fukuda, ingénieur pour Mazda à l'époque, pour s'apercevoir que tous les deux rêvaient d'un roadster à l'anglaise, mais moderne et fiable. Voilà comment donc, à l'aube des années 80, va se préparer pour Mazda le lancement d'une voiture qui allait devenir mythique, la Mazda MX-5. Par hasard, par passion ou par ouverture d'esprit, ainsi Mazda n'hésitait pas à embaucher Bob Hall, pourtant dépourvu de toute expérience d'ingénieur ou de designer dans le monde automobile. Juste parce qu'il avait la bonne idée au bon moment, avec les bonnes personnes. Il fallait quand même du courage à la direction de Mazda pour se dire « ce mec a des idées, faisons-le plancher là-dessus ». Donc c'est en 1981 que Bob Hall est au sein de l'entreprise Nippon Mazda avec une idée en tête. Convaincre la direction du bien fondé de son intuition. Pour lui, si le marché du roadster à l'anglaise s'est effondré, c'est surtout parce que l'industrie automobile anglaise s'est effondrée aussi. À force de mauvaises organisations, de manque d'investissement, de grèves à répétition et de qualité de fabrication parfois déplorable. Au contraire, durant les années 70, les Japonais avaient prouvé leur capacité à répondre à la demande de façon efficace, avec une qualité de fabrication sans égale en Occident, malgré la condescendance affichée par beaucoup. Bob Hall va donc mettre à profit ses compétences journalistiques en rédigeant un rapport comme peu de services marketing seraient capables de le faire. Un pavé décrivant une par une les voitures les plus emblématiques du créneau, avec l'explication rationnelle des raisons de la réussite ou de l'échec de chacune. Ainsi, beaucoup de voitures dans ce créneau vont être passées au crible. La MG TD, la MGB, la Lotus Elan ou encore les triomphes de la TR3 à la récente TR7, en passant par les autres modèles et marques européennes, genre Opel GT ou Matra 530, des coupés, des cabriolets, avaient tous un point en commun, le plaisir et une cible jeune, aisée et désireuse d'évasion, plus que de sportivité pure. En fait, Bob Hall et ses collègues et amis de chez Mazda étaient des visionnaires. En effet, dès 1981, ce qui allait se passer dans les années à venir, c'est-à-dire que les acheteurs, jeunes et dynamiques, allaient se scinder en deux courants. Ceux qui voulaient du sport, et du sport pur, issu en France de la tendance Renault 8 Gordini, se dirigeaient vers les petites sportives, qu'on appelait déjà GTI, depuis la sortie d'une certaine Golf GTI. Et ceux plus hédonistes, moins puristes, sans doute, mais plus sages, désireux, eux, de revenir au roadster à l'ancienne. Or, ce marché avait quasiment disparu au début des années 80, alors que celui des GTI explosait, notamment avec le lancement de la Peugeot 205 GTI. Mais revenons à notre Mazda MX-5. L'idée de Mazda et de Bob Hall, mais aussi de Fukuda ou de Kenichi Yamamoto, ingénieur en chef à l'époque chez Mazda, c'est qu'il existait un terreau fertile, relativement aisé et porteur en termes d'image, à savoir les professions libérales, cadres dirigeants, les CSP+, comme on dit, prêts à se laisser tenter par d'autres plaisirs solitaires. L'idée maîtresse de ce que deviendra la Mazda MX-5, c'était sans doute ce côté plaisir, sans aller chercher la limite de la voiture. Un moteur à l'avant, plutôt sympa, une ligne basse et sexy, tendance carte, une propulsion, de quoi se faire plaisir dans les virages des 60 km/h. Voilà la philosophie de cette voiture. C'était évident, mais encore fallait-il y repenser ou même y penser. Si j'insiste sur la présence de Bob Hall, Fukuda ou encore Yamamoto, c'est que ce mythe automobile que deviendra la Mazda MX-5 ne doit son existence qu'à l'intelligence de quelques hommes, persuadés d'avoir raison en dépit des études marketing qui commençaient à fleurir chez tous les constructeurs à ces époques-là. Mais avant que le rêve ne devienne réalité, tout ne fut pas aussi simple. Et si le constructeur d'Hiroshima, Mazda, fut convaincu du bien fondé du concept de petit roadster, la marque n'en oubliera pas de tâter le terrain en exploitant diverses pistes. C'est en 1983, il devenait donc acquis que cette direction était la bonne, restait à en déterminer les contours. Sous la direction de Masakatsu Kato, le centre de design de Tokyo, celui d'Hiroshima et celui de Californie allaient devoir se surpasser pour remporter l'affaire. Du côté de Tokyo, on allait s'attaquer à un coupé à moteur central, à la manière d'une Toyota MR plus tard, ou d'une Pontiac Fiero qui donnera naissance à de nombreuses répliques. À Hiroshima, donc, la tendance allait vers un roadster à moteur avant et traction avant, permettant notamment de nombreuses économies d'échelle. Il suffisait pour la marque Mazda de reprendre la plateforme existante d'une traction de la gamme. En Californie, en revanche, sous l'impulsion toujours de ce même Bob Hall, on restait puriste, avec une architecture proche de celle des roadsters anglais, justement, moteur avant et propulsion. Certes, le projet d'Hiroshima était plus économique, tandis que celui de Tokyo était plus radical. Mais celui de Californie reflétait mieux la tendance du moment. D'ailleurs, la clientèle envisagée n'était-elle pas justement californienne? La fiscalité aurait été de choisir le projet Hiroshima. La réalité, c'est que pour bouleverser le marché, il fallait rester focus sur ce que représentaient les MG ou Triumph de l'époque. Ni ordinaire, ni sportive, juste elle-même. Un choix cornélien donc pour les dirigeants de Mazda. Allait-on choisir la facilité, préférer la radicalité ou prendre le risque d'avoir raison seul contre tous? Ce sera finalement l'option californienne qui sera retenue. Un petit cabriolet devenant coupé grâce à un hardtop avec le moteur à l'avant et les roues motrices à l'arrière. Un condensé de liberté procurant du plaisir malgré les limitations de vitesse américaines. Encore aujourd'hui, la Mazda MX-5 prouve sa pertinence malgré les 80 km/h devenus top speed. Si pour autant le projet californien est bien avancé, la direction de Mazda n'a pas encore pris de décision et penchait toujours pour l'option tout à l'avant. et en 1984, rien n'était joué encore. Mais entre les croquis séduisants et la réalité de la maquette, le projet Duo 101, c'est-à-dire le projet californien, sera finalement retenu. Car des trois propositions, c'est celle qui était la plus aboutie et la plus séduisante. En outre, les équipes avaient tenu compte des questions économiques, en se basant sur une vieille Mazda 313 propulsion. La Duo 101 deviendra ensuite la V705, en passant chez IAD en Angleterre. Un châssis poutre sera réalisé sur mesure, tandis que moteur et transmission provenaient de la Mazda 323. De quoi donner des sueurs froides à la Fiat X19, encore en production chez Burton malgré son grand âge, ou à la toute nouvelle Reliant Scimitar SS1, qui voulait justement, avec peu de moyens, prendre la place de MG et Triumph en Angleterre. Allez, à présent, on va se faire une petite page musicale avec un hommage. Et oui, un hommage musical, puisque là, c'est le DJ Ron Carroll, l'Américain, qui nous a quittés le week-end dernier. Il avait fait un titre fort connu dans les années 2000, où moi, je me suis pas mal trimoussé dessus, et je suis sûr que certains d'entre vous aussi, qui étaient avec le groupe Superfunk, notre groupe funky français, et qui avait fait donc ce titre Lucky Star, qui était un véritable phénomène à l'époque. On s'écoute donc Lucky Star des Superfunk, avec ce feat avec Ron Carroll, et on se retrouve donc tout de suite après, donc pour cet hommage à Tom Matano, donc l'un des papas de ce qui sera ce mythe automobile qu'est la Mazda MX-5. A tout de suite. Let me be your lucky star. Shine it down.
Something I can feel deep inside my body, my soul.
Voilà, c'était le groupe Super Funk avec Look It Star, avec ce feat du regretté Ron Carroll, qui nous a quittés, je vous le rappelle, le week-end dernier. Allez, sans plus attendre, on retourne donc à un autre hommage, celui de Tom Matano, le papa de cette voiture qui deviendra un véritable mythe, qu'est la Mazda MX-5. Finalement, c'est en 1986 que le projet sera validé et retravaillé ensuite par le styliste Tom Matano. Cela donnera cette bouille rigolote, rondouillarde, mais pourtant muscleuse. Tout est dans la nuance et la Mazda MX-5, dite NA, la première de la série, fait bien les choses en arrivant à concilier sportivité et sympathie. En bonne voiture née dans les années 80, les phares escabotables lui donnent ce petit plus que les suivantes, NB notamment, n'auront plus. À son lancement en 1989, la Mazda MX-5 NA ne proposait qu'une seule motorisation, le 1,6 litre de 115 chevaux de la Mazda 323 coupé à une boîte 5 rapports. De quoi largement se faire plaisir. D'ailleurs, l'atout principal de cette voiture était bien là. Le plaisir, même avec peu de chevaux. Mais bon, la Mazda MX-5 ne pèse que 940 kg. L'agilité et bien entendu les cheveux au vent, pour ceux une fois encore qui en ont, elle florait bon les années 60, rappelait vaguement la Lotus Elan, première du nom, et franchement envoyait une vague de fraîcheur sur la production automobile. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Et pour la première année de production, année modèle donc 90, la Mazda MX-5 ou Miata aux USA se vendit à 51 636 exemplaires. Pas mal du tout pour un créneau soi-disant moribond. Certes, les ventes tombèrent en 1991 avec seulement 38 287 unités, puis stagnèrent aux alentours de 20 000 exemplaires par an jusqu'en 1997. Et son remplacement par la NB. Mais avec un total de 215 364 Mazda MX-5 NA produites, la démonstration était donc faite. Les autres constructeurs automobiles ne pouvaient que constater. Il existait donc un marché pour les petites voitures hédonistes. Piquée au vif, la marque MG, propriété du groupe Rover à l'époque, encore indépendante, s'empressa de réfléchir à une concurrente. Pour faire patienter les aficionados de la marque, on présenta donc la RV8, essentiellement destinée au marché japonais. Tiens, tiens, comme c'est curieux. Mais la RV8 est un peu un plat réchauffé, c'est-à-dire une MGB moderne. Avant de se lancer dans le grand bain en 1995 avec la MGF, à l'architecture paradoxalement moins anglaise. Moteur dans le dos cette fois-ci. Chez BMW, on réagit avec la BMW Z3 la même année, mais l'anglaise, comme l'allemande, était déjà à la bourre. Car ces deux modèles n'apparaissant que 6 années après l'apparition de la Mi Mix. Entre-temps, la japonaise avait réussi à se créer une communauté de fanatiques, ne jurant, eux, que par la Mazda MX-5. Pour l'année 1994, la Mazda MX-5 changeait son offre moteur. Adieu le bloc unique. Place à deux moteurs, un 1,6 litre de 90 chevaux et un 1,8 litre de 130 chevaux. Déjà en 1991, BBR, Brody Britain Racing, avait musclé la Miata. 750 exemplaires environ, dont 22, seront de très rares mais officiels Mazda MX-5 ENA Le Mans. Grâce à un turbo portant le 1,6 litre à 150 chevaux. Mais il faut l'avouer, pour le puriste que je suis par exemple, la Mazda MX-5 se déguste en atmosphérique et non en turbo. Une chose est sûre, tous les possesseurs de Mazda MX-5 ENA sont unanimes, quel que soit leur moteur. En 90, 115 ou 130 chevaux, tous vous diront « c'est de la balle cette bagnole ». Certes, les 90 chevaux du petit 1,6 litre pourront sembler a priori justes, mais en réalité, peu importe, puisque l'essentiel subsiste. Une voiture marrante à conduire, facile à vivre, dont le seul défaut reste d'être un plaisir égoïste. Souvent, la Mazda MX-5 sera la voiture plaisir avant mariage ou à contrario, la voiture plaisir après le départ des enfants de la maison. Je peux vous dire, moi par exemple, que je ne compte plus les copains qui possèdent une Mazda MX-5 ou qui rêveraient d'en posséder une. Merci donc à ce grand monsieur qui était Tom Matano, le papa donc de ce roadster mythique qu'est la Mazda MX-5. Il a également signé, Tom Matano, également un véhicule absolument sublime. Juste après la Mazda MX-5 ENA, il co-signa avec Yoshi Sato un nouveau coup de maître en dessinant la Mazda RX-7 type FD qui avait été lancée en 1991. Voilà, comme je le dis toujours, le temps qui nous était imparti est parti. Cette émission s'achève avec donc cet hommage à Tom Matano, le papa de la Mazda MX-5. Avant de nous quitter, n'oubliez pas notre jeu concours pour les 70 ans d'Alpine pour tenter de remporter chaque semaine jusqu'au 2 octobre deux places pour les Classic Day qui auront lieu les 4 et 5 octobre prochains sur le circuit de Nogaro. Pour cela, répondez à la question suivante. En quelle année la nouvelle Alpine A110 a-t-elle été présentée ? Pour répondre, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter à libertéfm.fr. Ensuite, vous vous rendez dans l'onglet « Jeu » et vous répondez à la question. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 18h. Bonne chance à tous. Voilà, cette émission s'achève. Ça roule, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route. Encore.